Bonsoir Daniel, Martial de Mont-Louis-sur-Loire. Jubilation, joie, oh bonheur, et Noël, Noël, je viens d'apprendre à 18h04 que les faucheurs volontaires ont été relaxés au tribunal d'Orléans. Il a été reconnu le bien fondé de leur lutte et effectivement le risque potentiel d'une contamination par les pollens. Enfin, il semblerait qu'on ait une justice qui réfléchisse. Ça, c'est vachement bien. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir aller faucher, fauchons, fauchons. Soyons heureux dans la campagne, nous allons nous faire du bonheur. Chouette, pourvu que ça dure. Salut!
Supprimer 6000 emplois à EDF est une exigence du monde moderne. Truquer les chiffres du chômage en radiant les chômeurs des listes et récompenser les fonctionnaires qui ont fait cela est une exigence du monde moderne. Diminuer les impôts des plus riches est une exigence du monde moderne. Vendre les autoroutes à des copains au moment où ils commencent à être rentables pour le citoyen qui les a financés est une exigence du monde moderne. Favoriser le développement du travail pauvre est une exigence du monde moderne. Répondre au problème de la pauvreté par l'instauration de lois d'exception est une exigence du monde moderne. Renoncer à être au service du peuple et favoriser les intérêts de sa caste, tout en se prétendant être les héritiers du général de Gaulle, est une exigence du monde moderne. Allez-vous enfin comprendre cela ? Salaud pauvre.
Alors, 1905, loi de la séparation de l'Église et de l'État. 2005, loi de séparation du MEDEF et de l'État.
Bonjour, je m'appelle Christophe Hehan. Moi, je suis en train de conduire un camion, là, pendant que j'écoute votre émission. On est le vendredi 9 décembre. Et j'entendais la lettre, là, de l'Africain qui a perdu son ami. Et moi, je suis en train de transporter des chevaux qui valent bien plus cher que la vie d'un homme. Et voilà, quoi, pendant ce temps-là. Lève-toi, citoyen.
Oui, il y en a marre des émissions spéciales répondeurs. Alors moi, je propose un Hermeton pour qu'il reparte en reportage, parce que c'est quand même vachement plus intéressant que ce que pensent les auditeurs de Daniel Mermet. Voilà, moi je m'en fous. Voilà, vous en foutez probablement que je m'en foute. Donc foutons-nous en toutes et envoyons Mermet en voyage, parce que c'est bien plus intéressant.
Eh ben voilà, vos désirs sont des ordres. Je vous ai compris, je m'en vais en voyage tout de suite, pas plus tard qu'à l'instant même. Avec Give, nous partons pour Mayotte, nous partons pour les Comores. Depuis des années, des auditeurs de là-bas nous disent venez nous voir. Et ben voilà, c'est tout de suite, on va voir là-bas si on y est à l'instant même, avec une petite pensée quand même pour nos confrères et pour tous ceux qui se décarcassent pour vous du matin au soir, qui vous aident à penser, vous disent ce qui est bien, ce qui est mal, vous disent comment vous adapter aux exigences du monde moderne. Et ben ça marche pas fort, ça marche pas fort du tout, puisque un sondage publié aujourd'hui indique que vous traînez les pieds. Vous traînez les pieds, la mondialisation libérale, vous n'êtes pas convaincu, et même à plus de 50%, à 52%, vous voyez dans la mondialisation plutôt des motifs de crainte que d'espoir. Pour 74% des Français, la mondialisation profite aux actionnaires et aux multinationales. La mondialisation constitue une menace pour les agriculteurs des pays développés et pour les salariés des pays développés. 57% des Français pensent cela. Et 50% de Français ont de la sympathie pour les mouvements altermondialistes. Alors bien sûr, ce n'est qu'un sondage, avec toutes les réserves qu'il faut faire, mais enfin c'est quand même une indication qui, je pense, doit en décourager plus d'un quand on pense aux efforts considérables qui sont faits depuis si longtemps pour vous convaincre que le libre-échange, que l'économie de marché, il n'y a rien de mieux. Et ben voilà, vous ne marchez pas. Alors voilà, tous ces confrères, tous ces maîtres à penser deviennent marginaux. Il y a eu le oui. Vous vous souvenez, comme il vous avait dit de voter oui, eh ben vous avez voté non. Alors ben, ils se trompent, ils se retrompent, ils se surtrompent. Mais on va être très magnanime, on va les garder encore un peu. Alors aujourd'hui, donc, nous partons, mais vous allez avoir la chance de revenir dans le monde enchanté, de rester dans le monde enchanté du libéralisme réellement existant avec les petits soldats du libéralisme, c'est-à-dire, en l'occurrence, le monde enchanté de l'audit et du conseil. Souvenez-vous, Work Hard, Play Hard, c'est notre sujet d'aujourd'hui et c'est pas triste du tout après ces messages que voici avec la création de nouveaux repères de la base J'y suis un peu partout à travers le monde.
En 1928, à Pont, Charente inférieure à l'époque, le président Édouard Herriot inaugurait un monument de reconnaissance à Émile Combes qui fut maire de la ville pendant 43 ans et aussi père de la loi de 1905. Séparation des églises et de l'État. Ce jour-là, un homme sortait de la foule et bondissait vers le buste d'Émile Combes, lui brisant le nez d'un coup de marteau. Les forces de l'ordre tirèrent dans la foule en agitation suite à l'émoi provoqué. Et un homme fut tué. Les 15 et 16 octobre 2005, à l'appel de Laïcité 2005, deux jours de commémoration eurent lieu avec inauguration d'une plaque scellée sur le monument. Dans la nuit du 9 décembre 2005, comme par hasard à cette date, le buste d'Émile Combes a été enlevé et deux statues au pied du monument ont été mutilées à coups de marteau et au nez, encore comme par hasard. Face à la laïcité, base même de la tolérance entre les différentes croyances et la non-croyance, la tolérance prônée par les religieux de tout poil ne serait-elle que l'acceptation forcée de leurs idées, obscurantistes, passéistes et féodales, interdisant toute velléité de progrès. Merci de passer le message, merci pour l'émission. Et ça serait sympa de nous rendre une petite visite pour qu'on marche ensemble dans les pas de ce grand homme qu'on appelait le petit père Combes.
Je vous appelle pour vous parler d'un sujet dont on parle pas très souvent. Excusez-moi, il y a du bruit derrière, c'est parce que j'appelle de mon camion, j'ai du mal à faire autrement. On parle pas très souvent justement des petits patrons, des PME, qui, comme ils n'ont pas d'ouvriers syndiqués, peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent avec leurs ouvriers. Et moi, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, certainement, je me fais des 12 heures, 13, 14 heures, des fois jusqu'à 20 heures par jour, payé 8 heures, point barre. Voilà, ça existe encore en France, il y a encore beaucoup de gens qui tournent comme ça. Et si vous allez interroger ces patrons-là, ils vous diront qu'ils peuvent pas faire autrement, que c'est comme ça, que c'est malheureux, sinon ils peuvent pas se payer leurs vacances, c'est dommage. Alors les petits patrons qui gagnent à peine au-dessus de leurs ouvriers, hein, ils foutent déjà bien de nous, alors j'imagine les grands, enfin voilà. Allez, salut.
Je m'appelle Denise. C'était pour dire qu'à Nîmes, on serait prêt à créer un repère des amis de là-bas si j'y suis. Alors, on a trouvé un café qui est très sympa, qui s'appelle le Ad Hoc Café. Et on a discuté avec le patron qui serait d'accord pour que les amis de là-bas, si j'y suis, puissent s'y retrouver. Et on envisageait de se rencontrer le deuxième vendredi de chaque mois. Et donc, la première rencontre serait le 13 janvier 2006, bien sûr, à 19h. Eh bien, au revoir et puis bon courage. Et à une prochaine.
Salut, c'est Jacques. Je vous téléphone pour vous annoncer que ce soir à 19h aura lieu la première réunion du repère des amis de là-bas si j'y suis à Tournai en Belgique. Le rendez-vous est fixé à un café qui s'appelle Le Repère et qui est situé dans un petit village de l'agglomération de Tournai qui s'appelle R. Et tout le monde est le bienvenu ce soir, lundi 12, 19h. Au plaisir de vous voir là-bas et bonjour à tous. Où que vous soyez, salut.
C'est rempli ta timesheet pour dire combien de temps tu as travaillé cette semaine. Tu vas cruncher du chiffre pour dire que tu vas constituer des bases de données. Le staffing est bon pour dire qu'on a un bon encadrement. On a un conf call, ramène ton laptop pour parler d'ordinateur portable.
Je suis un repenti, ou en tous les cas je serai un repenti quand j'aurai changé de travail, dans le sens où j'aurai contribué à un système qui, à mon avis, est vraiment, vraiment condamnable. Je parle d'un système condamnable pour l'exclusion qu'il génère et pour la misère et la détresse qu'il génère.
Je me nomme Merci Jean-Marc. J'ai entré dans les établissements Le Vert le 5 avril 71. Donc cette année, ça aurait fait 33 ans d'ancienneté. Et voilà, on est arrivé à un point qu'on a été licencié. Ils ont fait des bénéfices, ils nous ont pris, ils se sont servis de nous. Bon, ils nous ont lâché à un âge comme moi qui est vraiment critique. Puis bon, ben, nous, on est même plus sur le marché de l'emploi parce qu'il n'y a plus personne qui veut de nous. Je vous dis, je vais avoir 55 ans au mois d'août. Je vois pas un entrepreneur me prendre, faire une formation et puis sachant très bien que 2-3 ans après, c'est la retraite, quoi. Donc il va pas s'emmerder avec nous.
C'est le visage invisible du capitalisme. Ce sont des professions qui au final, tirent parti du système, du moins pour quelques-uns, et tout le monde espère y arriver, et qui vivent dans l'ombre, dans la discrétion. C'est un capitalisme qui est à la fois policé et violent. C'est un milieu qui est trop éloigné de la réalité du plus grand monde pour prendre conscience des conséquences très dures de ces décisions.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bessie J'y suis avec Olivia Gisbert. Hop, all right.
Flight number 2, arriving from New.
Donc on a choisi cet endroit parce qu'on s'est dit que c'était en bas de l'immeuble d'Accenture. Alors Accenture, c'est une des grandes boîtes de conseil mondiales, anciennement Andersen Consulting. Et on s'est dit que on trouverait ici vers 7h du soir des consultants en train de boire un verre après leur journée de travail et que ça nous mettrait un peu dans l'ambiance intéressante sur le milieu.
Très ordinaire hein, comme situation, comme voix. C'est une voix d'une femme normale, rien d'extraordinaire. Hein. On est dans un endroit ordinaire. Et pourtant, ce rendez-vous a été très difficile à mettre au point, figurez-vous. Et ce qui va être dit là, c'est ça se dit en douce. C'est effectivement, comme ça vient de l'être indiqué, un visage invisible du capitalisme que nous allons essayer avec Olivia de vous montrer. Quel visage? De qui on parle? Eh bien, de ceux qui, vous avez entendu, le plan social, l'Uni Le Vert, ce salarié d'Uni Le Vert qui s'est fait virer. Ça, c'est une voix qu'on a entendue depuis des années dans cette émission et ailleurs. Les victimes des plans sociaux, des restructurations, ça fait des années qu'on dépeint ce genre de catastrophe avec les victimes, les différents acteurs, le représentant syndical, les gens absolument consternés, ceux qui tirent un peu la couverture à eux, l'élu, le préfet. Mais jamais ceux qui ont fait ce plan social, ceux qui l'ont conseillé, ceux qui l'ont mis en œuvre, appliqué. Très difficile. C'est un monde, comme on vient de le dire, je le répète, un monde invisible, un visage invisible du capitalisme. Là, c'est le milieu des consultants, le consulting, le milieu de l'audit qu'on va rencontrer aujourd'hui, et c'est difficile. Ils ont accepté de nous parler. Elle s'appelle Aubépine, il s'appelle Olivier, dans ce café, bar, cossu, d'un quartier qu'ils connaissent bien, en bas d'un immeuble dans lequel ils ont travaillé longtemps et dont ils sont sortis il y a peu de temps. Ils nous expliquent ce qu'est ce monde, celui d'une grande société qui maintenant a fermé, a fait faillite, on peut dire, il y a peu de temps, qui s'appelait Andersen. C'est-à-dire une des grandes entreprises mondiales de consulting, Andersen. 80 000 salariés. Ils y ont travaillé, ils savent de quoi ils parlent et ils en sont sortis. Ils ont très peu à en être sortis et à oser parler. Ils sont donc
out.
J'ai grandi dans une famille, je sais pas si je peux dire notable de province dans le nord de la France. Puis peu à peu, je me suis dirigé vers la finance. J'ai fait un master d'économie en Grande-Bretagne. J'ai fait un DSS de finance. Puis aussi parce que l'excitation était très forte à l'époque du boom boursier et la forte croissance de la fin des années 90. J'ai voulu rejoindre la City à Londres et donc le milieu bancaire. C'était le genre de boulot. Tu voyais ton action à la une du Financial Times. Et puis, c'est vrai que commencer sa carrière avec 40 000 balles par mois, c'est assez excitant quand on a 23 ans. Je dois dire en plus qu'il y avait un côté, c'est l'aventure, c'est un peu la flibuste. T'es jeune, t'y vas, tu risques tout, tu gagnes beaucoup. C'est un monde sans pitié. Enfin, tu prends des coups, tu les rends, voilà. J'ai pris des coups, effectivement, je me suis fait virer. C'est vrai que c'était étrange parce que depuis plusieurs jours, les gens des ressources humaines travaillaient tard, ils avaient placé des colosses devant des vigiles devant leurs imprimantes, ce qui n'était pas habituel. Et on est venu me chercher, on a dit, oui, il y a le directeur des ressources humaines Europe qui a envie de te voir. Comme j'étais quand même le larbin de base, je trouvais ça assez étrange. Il m'a accueilli dans son bureau, il m'a servi un discours, oui, on a décidé de redimensionner nos équipes, comme tu es au courant, et malheureusement, alors là, il me met la main sur l'épaule, malheureusement, tu fais partie du plan. Les gens qui peut-être présentaient plus de difficultés ou d'enjeux pour la boîte ont été priés d'aller directement à la sortie où un vigile les attendait avec leurs affaires dans un sac poubelle. Franchement, quand on gagne des salaires comme ça, on n'est pas à plaindre. Celui qui avait un an d'expérience partait avec un chèque de 250 000 francs, c'est pas terrible dans le fond. Après ces quelques mois de chômage, j'ai rejoint un des Big Four, comme on dit. Et là, ça a été vraiment le désenchantement, puisque j'ai compris qu'il allait falloir servir un système qui me déplaisait de plus en plus.
Au 33e étage, la vue est si belle, je me sens pousser des ailes. Au 38e étage, c'est vraiment génial, c'est là, direction générale. Au 34e étage, ils sont à Tillon, c'est le contrôle de gestion. Au 36e étage, ils sont pas peu fiers, c'est la direction financière. Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable du siège éjectable. 33e étage, c'est déjà pas mal pour mon âge. Au 28e étage, toi un bon piston, c'est la communication. Au 35e étage, la clim est en rade, 35 degrés centigrades. Au 29e étage, sur eux tu peux compter, c'est la comptabilité. Et au 2e étage, c'est les moins que rien, c'est le service entretien. Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable, les sièges éjectables. 33e étage, c'est déjà pas mal pour mon âge. Mais depuis qu'on s'est fait racheter par la tour d'à côté, j'ai du mal à motiver. L'assistante du DRH me mate d'un air bravache. Mais depuis qu'on a couché, je peux plus rien lui demander. Entre cadres, quand on discute, c'est pour savoir si l'action chute et combien on peut toucher comme indemnité.
Là, on est vraiment dans le spirit of Enron. Il y a tout un tas de petits objets publicitaires qui rappellent et qui évoquent ce que fut Enron. Alors, ce que fut Enron, c'est d'abord des valeurs. Des valeurs qui étaient le respect, l'intégrité, la communication et l'excellence. Voilà, là, il y a un petit dépliant publicitaire qui explique Our Vision, Our Values. Là, on a des petits jeux de cubes qui jouent avec ces valeurs, c'est-à-dire le respect, je vous rappelle, l'intégrité, la communication et l'excellence. Et là, il y a un jeu d'anneaux, rouge, vert et bleu, qui joue avec les mots excellence, communication, intégrité, respect.
Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable des sièges éjectables.
Voilà, ça c'était en mars 2002 à Houston, Texas. Nous étions dans le building de Enron, un building désert. Un building désert dont les salariés avaient été virés exactement comme Olivier vient de nous le dire, en retrouvant leurs affaires sur leur bureau, dehors, dans une petite boîte en carton, la photo des gosses, les affaires dans le bureau. Virés, ils ont été virés en une demi-heure, les salariés de Enron. Vous vous souvenez de ces reportages et de cette affaire, le plus grand scandale financier de l'histoire des États-Unis. Et Andersen, à la fois conseil et audit d'Enron, a été mouillé dans cette affaire pour des malversations. Et évidemment, les autres agences Andersen à travers le monde, ont dû, changer d'enseigne, quoi. On s'appelle comme maintenant autrement, mais le boulot n'a pas changé, le sens du travail n'a pas changé, et les procédés n'ont pas changé. C'est effectivement un monde invisible, un monde virtuel qui, puisque tout est tellement naturellement, on nous l'a dit, répété, ça va de soi, tout ça est évident, donc il n'y a pas à discuter. Il y a quand même des choses qui se passent, il y a quand même des gens qui pensent, qui réfléchissent, et tout ça, il y a des idées, il y a de la chair, il y a des corps, on en parlera, qui sont domestiqués, qui sont livrés à certaines violences et à certaines pressions. Violence des échanges en milieu tempéré. C'est un film absolument formidable de Jean-Marc Moutou qui s'attache à raconter ce monde du consulting et de l'audit. Et qui prend évidemment comme sujet à peu près des personnages ou des personnes comme ceux et celles aubépines avec qui nous nous trouvons au moment où il faut se mettre les pattes dans le cambouis, c'est-à-dire mettre en œuvre un plan social avec tous les problèmes que ça pose de conscience ou pas. On n'est pas obligé du tout de venir dans ces endroits, dans ces bureaux et dans ces boulots avec sa conscience.
Que voulez-vous que je fasse?
Des tâches tellement serviles.
Crevez tous!
Ah ah! Je vais bien les diriger.
C'est un monde qui est à la fois très feutré et très violent, puisque c'est des beaux bureaux, tout le monde est en costume. Les réunions se font dans des belles salles lambrissées avec des belles tasses de café, etc. En arrière-plan, les relations sont quand même assez violentes entre les individus.
C'est un milieu où l'apparence a énormément d'importance. Et déjà, on pourrait se dire, bon, l'apparence vis-à-vis du client, ça c'est normal parce qu'on a une image à imposer, mais l'apparence vis-à-vis de ses pairs, c'est-à-dire vis-à-vis de ses collègues. Ben, on répète souvent qu'il faut être proactif, qu'il faut dégager une certaine énergie, une énergie assez féroce. Pas mal de gens qui travaillent dans ce milieu-là se voient comme des héros de la vie quotidienne, dans le sens où ils mènent une vie très exaltante, avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de conflits, beaucoup de stress. Alors la figure opposée à ça, c'est la figure du fonctionnaire qui fout rien, qui passe 2 heures à manger, qui part à 5 heures le soir, qui fait ses 35 heures, etc. À l'opposé de ça, on a le consultant, quoi. C'est le mec qui est toujours avec son glaive tendu comme ça, prêt à affronter n'importe quel dragon, prêt à dégainer son ordinateur portable. Prêt à faire une conférence call à 11h du soir, prêt à tout, quoi. Un consultant junior, c'est-à-dire quelqu'un qui a 25 ans et qui ne sait pas faire grand-chose, il coûte 10 000 francs par jour.
Pour le client.
Pour le client, oui. Du coup, le consultant ne peut pas se permettre d'être pris en défaut. C'est absolument impensable. Et dans ces cas-là, sa défense, c'est l'attaque. C'est un milieu qui produit beaucoup d'agitation, qui affiche beaucoup d'agitation, ça c'est important. Mais stimulation intellectuelle, ça, non, j'ai pas trouvé.
Oui, et puis le travail prend tellement de temps que, effectivement, on est toujours entre collègues, puisqu'on finit par sortir aux mêmes endroits, aux mêmes heures, dans les mêmes boîtes, les mêmes bars, comme ici ce soir. C'est un milieu dans lequel il y a tout un vocabulaire, ou plutôt tout un jargon qui est un peu inspiré de, enfin, clairement inspiré des entreprises anglo-saxonnes. Alors, c'est rempli ta timesheet pour dire combien de temps tu as travaillé cette semaine, tu vas cruncher du chiffre pour dire que tu vas constituer des bases de données, le staffing est bon pour dire qu'on a un bon encadrement, on a un conf call, ramène ton laptop pour parler d'ordinateur portable.
D'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle le Bullshit Bingo. Tu connais ? Les gens ont inventé ce jeu qui s'appelle donc le Bullshit Bingo. Ça se joue quand on est en réunion. Il y a un certain nombre de mots qui vont être employés. Donc à chaque fois qu'un mot est employé, on coche le mot sur sa feuille qu'on a préalablement préparée. Et le premier qui a coché tous les mots qui sont sur sa feuille lève la main et crie « Bingo !» Voilà. Et puis je pense aussi que ça fait classe de parler en anglais. Ça fait expert, ça fait... je sais pas, ça, c'est plus glamour. Ça donne quelque chose de... Au-delà de ça, je pense que c'est aussi une référence au monde anglo-saxon. Et au fait qu'on est français, mais on rêve d'être américain, quoi. On a l'image mythique de l'homme d'affaires américain. Ah voilà, ça c'est effectivement. Tu vois, il a l'air vachement soucieux. Il marche en baissant la tête. Il est tout maigre. Il a son bras droit qui est alourdi par sa sacoche. Sa sacoche où il y a son ordinateur portable. Et on sent que là, quelle heure il est. Il sort vachement tôt, là, il est 7h du soir. Tu sais qu'il va bosser ce soir. C'est assez typique. Walk on, play on. Walk on, play on. Dynamiser les troncs, rentrer dans le rang, dépasser ses dents, avoir un meilleur rendement, promouvoir l'entreprise, faire recettes et profits, même si nous sommes en crise, se formater au produit. Tout son temps, éliminer le maillon faible, être le meilleur concurrent, toujours bien suivre les règles, programmer sa vie, accumuler des bons points, se mettre en appétit pour mieux bouffer son voisin. Avoir un plan de carrière, placer ses intérêts, ne jamais revenir en arrière, se connecter au réseau, démagnétiser ses sentiments, oublier sa libido et tout autre débordement, se féliciter de sa réussite, ne jamais être en retraite, faire partie de l'élite et pourquoi pas de la jet set, avoir une bonne opinion de soi, garder un sourire mais sage, obéissant de surcroît.
you. Thank you, Dan. Thank you. Bien, merci à tous d'être là pour ce rassemblement important de MacGregor Consulting. Comme j'ai eu le tort de passer par une maîtrise de philo, personne n'est parfait, on m'a demandé de rappeler ici le sens profond de nos valeurs. Le monde entier repose sur la croissance économique. Malheureusement, peu de décideurs ont aujourd'hui une approche pertinente de la croissance. Les vues à court terme, les conservatismes, les lobbies entravent régulièrement une concurrence saine qui permettrait à tous de se développer, de travailler. Nous, à MacGregor, nous voulons libérer le monde de ces contradictions. Nous avons confiance en l'avenir. Et les obstacles ne nous font pas peur. Car la conquête de nouvelles libertés a toujours été l'apanage de quelques-uns, les meilleurs. J'aimerais que nous reprenions ensemble notre devise « Walk hard, play hard ».
Walk hard, play hard.
Walk hard, play hard.
Work hard, play hard.
Walk hard, play hard.
Work hard.
Voilà, extrait du film « Violence des échanges en milieu tempéré » de Jean-Marc Moutou. Tout est dit dans cette intervention, à travers le discours de ce personnage. Et alors il y a le philosophe, j'ai fait une maîtrise de philosophie. Ça c'est, on est très très friand de philosophes dans ces milieux. On tutoie Derrida comme Spinoza, Deleuze, Bourdieu à l'occasion, pourquoi pas. Enfin on utilise, on se gave de références, tout comme on s'habille d'une certaine façon, on vit dans un cadre qu'on vient de nous décrire, et toute la semaine on work hard, et le soir et en fin de semaine, surtout le vendredi soir, on play hard.
On s'en lasse pas.
Hein. Alors quelqu'un qui a étudié cet univers d'une façon très 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 pointue, c'est Vincent Petitet. Vincent Petitet, il est jeune, il a une petite trentaine. C'est un bac plus 12, plus 14, plus incroyable nombre de diplômes que ce garçon peut avoir. Et il a travaillé dans cette entreprise qu'il ne faut surtout pas appeler Andersen. Il faut surtout pas appeler cette entreprise Andersen. Il y a travaillé et de l'intérieur, il a fait une étude. Il a été conseiller, chargé de mission auprès du président d'Andersen France. Vous, ça vous dit rien, mais pour ce milieu-là, c'est très important. C'est des personnages auxquels ils accordent une très, très grande importance. Il a été donc le conseiller de ce président. Et comme il est, parmi ses diplômes, il a une maîtrise de sociologie, il s'est mis à faire une recherche sociologique tout à fait précise, tout à fait savante, tout à fait scientifique. Il vient d'obtenir sa thèse sur ce travail, une communication sur la domination dans les organisations, analyse d'un cabinet conseil international. Il prépare un roman actuellement, et il nous a expliqué dans quelles conditions il a enquêté, donc il a fait ce travail sur cette entreprise qu'il ne faut surtout pas appeler Andersen. Donc tu entres dans cette entreprise Andersen, non pas Andersen, on va pas dire Andersen, on va dire
Merton.
Alors il faut dire que c'est une entreprise très puissante.
Oui, c'est une entreprise qui a 80 bureaux dans le monde, qui embauche à peu près 80 000 personnes, dont 3 000 en France, et qui est implantée sur les 5 continents, avec des clients extrêmement puissants, extrêmement prestigieux, donc a une position financière vraiment de dominant total dans le monde des affaires.
Et cette entreprise était compromise avec Enron et a été emportée dans la faillite Enron.
Il y avait une une endosmose abusive entre Merton et l'entreprise Enron. Ça veut dire qu'il y avait des certaines pratiques qui frôlaient un petit peu l'illégalité, parce qu'on mélangeait des missions de conseil et des missions d'audit. On était à la fois le garant des comptes de l'entreprise, mais en même temps, les entreprises, suite à des missions de conseil multiples, versaient à Merton plusieurs millions de dollars par an.
Mais comment est-ce que toi, d'accord, diplômé, surdiplômé, aussi facilement, aussi rapidement, se trouve à conseiller le grand boss? Tu lui donnes un supplément d'âme, une espèce.
Voilà, je lui faisais des petites notes de synthèse.
Une profondeur de champ intellectuel.
Voilà, il n'avait pas le temps d'en avoir, donc je lui en donnais.
Donc, a priori, tu rentres là-dedans, t'es content, t'es bien payé?
Je suis bien payé, oui, je suis payé à peu près au départ, je dirais 2500 euros par mois, donc pour un premier job, c'est pas mal.
Avec quel âge?
J'avais 26 ans.
26 ans, 2500 euros, pas mal.
Pas mal, mais à l'échelle du cabinet, c'est vraiment pas grand-chose. Un associé peut être payé 150 000 euros par mois.
Au fond, il y a un moment, tu descends de ton vélo pour te regarder pédaler, hein, et tu commences à avoir envie de raconter ce qui se passe autour de toi. Tu es un passager clandestin.
Oui et non, parce que je rentrais bien dans le schéma quand même au départ. Les 6 premiers mois, je travaillais beaucoup, mais il y avait ma petite voix de chercheur qui me disait c'est quand même un univers assez intéressant. Il y a une réalité sociale là qui ne dit pas son nom, mais qui est très réelle. Là, l'intérêt c'était d'être dans cet univers et d'écrire dessus. Chose assez originale. Certaines personnes trouvent que bon, j'aurais craché dans la soupe, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque ma thèse c'est pas un travail de dénonciation d'une réalité épouvantable, c'est un travail scientifique et objectif comme un autre.
Voilà le genre de cadre nécessaire à ces entreprises, musique classique, musique de distinction. Il faut absolument que tout ça se fasse dans la distinction afin que vous compreniez bien que vous êtes des tocards, vous êtes des ringards, vous êtes des perdants, des géniards et des pleurnichards. Ici, vous êtes dans le monde des hop, vous êtes dans le monde des gagnants, vous êtes dans le monde des winners. Voilà où nous sommes aujourd'hui avec là pour l'instant on a rencontré deux repentis de cet univers et puis Vincent Petitet donc qui a fait cette étude sociologique sur ce monde-là de l'intérieur. Il a vécu, il a travaillé à l'intérieur, dans les cercles très très proches du pouvoir de ces entreprises, et il a tiré donc une thèse, mais bien sûr avec toute l'objectivité scientifique. On sait ce dont il retourne, cette objectivité scientifique. Les scientifiques ne sont pas plus objectifs que vous et moi. Vincent Petitet.
Alors quand je suis arrivé chez Merton, moi j'ai dû rédiger un message qui était un message sur le dress code pour leur conseiller de la façon dont ils devraient s'habiller quand ils allaient chez le client. C'est-à-dire que certains consultants allaient chez le client d'une façon un petit peu trop décontractée. Donc on désirait qu'ils aient une image, qu'ils véhiculent l'image du cabinet, mais d'une façon un petit peu glorieuse. Donc un beau costume plutôt sombre, avec une cravate plutôt sombre, une chemise claire. Donc il y a un ajustement qui se fait assez progressivement des uns par rapport aux autres. Alors des fois ça peut être un peu violent, parce que il y a certains consultants ou certaines consultantes qui vont rappeler à l'ordre un de leurs collègues qui sent la transpiration, il est mal sapé, mais sinon c'est plutôt implicite.
Le 45 tours par exemple, j'ai lu ça quelque part.
Le 45 tours sous les aisselles, donc c'est les auréoles de transpiration sous les aisselles, quelque chose d'absolument inacceptable.
T'as commencé à employer des mots comme dress code, etc. Il y a cette novlangue.
Oui, c'est un langage vraiment très anglicisé. Au départ, on a un peu de mal à comprendre quand on nous parle de staffing, de pricing, de networking talks ou de knowledge management. On comprend pas non plus. Donc le langage se modifie petit à petit pour justement rendre les procédures assez uniformes. Walk out,
play out. Après, vous parlez d'une militarisation, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois extrêmement violent, un monde extrêmement violent, mais très sympathique, très très cool en apparence.
La militarisation, c'est un terme qui m'est venu aussi du fait que finalement, les consultants eux-mêmes s'appellent des petits soldats, ou disent-nous les GIs. Et par ailleurs, ce sont des gens qui sont mobilisables tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation infinie des individus dans ces univers de conseil. Ils sont mobilisables pourquoi ? Parce que quand ils vont chez eux, ils peuvent se connecter. Quand ils vont chez eux, on peut les appeler. C'est des gens qui vont travailler jusqu'à 3h du matin. Ils seront mobilisés sur une mission jusqu'à 3h du matin. Bien sûr, ils vont avoir des primes, ils seront très bien payés. Mais la contrepartie, c'est travailler tout le temps pour l'organisation.
C'est eux qu'on voit dans les pubs, c'est eux qui montent dans les belles voitures qu'on voit dans les pubs, c'est eux qui sont dans les paradis qu'on nous montre dans les pubs, avec les femmes magnifiques qu'on nous montre dans les pubs. Donc c'est un monde exemplaire.
Oui, mais ce sont des gens qui mobilisent un capital intellectuel, je dirais, puisqu'ils sont tous surdiplômés, grandes écoles, etc. Et puis un capital financier, parce qu'ils sont très bien payés. Donc ils développent comme ça une image de Superman des affaires. En plus, les missions de conseil ou d'audit font que la personne qui se présente comme consultant ou auditeur a tout de suite cette image d'expert. C'est celui qui sait, c'est celui qui a la connaissance. Donc, ça renforce justement ce qu'on pourrait appeler le corps glorieux du consultant et du représentant du monde du conseil.
Le corps glorieux ?
Ben oui, c'est un corps jeune, c'est aussi un symbole de réussite, c'est un symbole de réussite financière, intellectuelle, donc c'est quelque chose d'extrêmement glorieux, d'extrêmement valorisant. Le monde du conseil est un monde enchanté et enchanteur, qui joue sur des mythes et des mythologies, donc mythologie de la réussite, mythologie de l'argent. Donc quand on rentre dans cet univers, un des slogans c'est « Passion for Excellence », donc la passion de l'excellence, on est quand même séduit, c'est quand même très valorisant.
Alors on a parlé de la domestication des corps et la domestication des esprits. À partir de quand est-ce qu'on peut observer vraiment une soumission totale à cette autorité floue ?
Je parlerai peut-être pas de soumission, mais plutôt de servitude volontaire. Ça peut être l'acceptation de la hiérarchie, qui devient beaucoup plus facile. Ça peut être aussi l'acceptation de l'évaluation à la fin de l'année. On accepte d'être évalué par le manager parce que c'est le manager. On accepte la sanction, on accepte de se faire traiter un petit peu de nul, sans rien dire. Donc on va être critiqué, pas forcément sur nos qualités professionnelles, mais sur nos qualités humaines. On va plus dire Vincent, c'est pas un bon ingénieur, il travaille pas assez vite, mais on va dire ouais Vincent, il travaille pas bien, il est jamais content, il est grognon. Donc petit à petit, la relation de ce travail va se resserrer pour se situer sur un plan plus individuel et plus personnel. Mais c'est là aussi le rôle de l'entreprise de sélectionner les plus forts.
Voilà. C'est la sélection des plus forts, c'est un darwinisme social.
C'est un darwinisme du monde des affaires.
Walk out, play out. Walk out, play out.
Enfin, être avocat d'affaires, être consultant, être auditeur, être banquier, c'est pas des métiers dont on rêve quand on est petit. Quand on est petit, on a envie d'être pilote de chasse, d'être juge, d'être chirurgien ou d'être pompier. On n'a pas envie de faire du chiffre, on n'a pas envie de devenir un professionnel des contrats ou de fusionner des entreprises. Et c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert en fait en grandissant dans ce milieu-là. Quand on parle de performance, de concurrence, c'est un peu le up or out. Ce sont des entreprises, que ce soit des banques, des cabinets, qui ont une structure pyramidale. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde et chaque année, il faut dégraisser. Et quelque part, ça vient en contradiction avec l'esprit de famille qu'on essaie de faire naître dans ces entreprises où on se protège les uns les autres, mais en même temps, on se fout des petits croche-pattes vilains.
Petit croche-patte vilain, c'est Olivier qui parle. L'air de rien, il est très gonflé, Olivier. Ce qu'il fait là, ça a l'air, d'accord, c'est un gars qui critique le milieu dans lequel il a travaillé. Oui, mais il est grillé. On avait rencontré ça, si vous vous souvenez, avec les virés de chez Enron à Houston, qui hésitaient à parler. Pourtant, Dieu sait si leur situation était absolument révoltante. banque, mais ils hésitaient à parler et à se plaindre parce qu'ils craignaient de ne pas être repris par d'autres entreprises du coin qui observent tout ce cheptel, et celui qui l'ouvre trop, qui réclame simplement ses droits, eh ben, il réduisait d'autant ses chances de retrouver un emploi dans la région, dans le coin, enfin dans les entreprises autour de Houston. Et ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce garçon, ben il a du courage, il a fait son choix, ça a l'air d'être un courage minuscule, et pourtant, par rapport à ce milieu, c'est un grand courage, tout comme l'étude de Vincent Petitet, faite de l'intérieur, bien sûr, qu'il y a des sociologues comme Vincent de Goljac ou des gens comme ça qui étudient le monde de la gestion et qui critiquent ceci pour améliorer, pour rendre ça plus gentil, plus humain, etc. Mais une critique aussi radicale de l'intérieur, eh bien, il y en a très très peu, alors qu'il s'agit, on l'a compris, d'un monde extrêmement influent, extrêmement important, extrêmement puissant, emblématique et symbolique de notre époque. C'est là que se fait notre époque. Ceux avec qui nous sommes sont les petits soldats. Et c'est tout à fait comparable d'ailleurs à une armée. La métaphore revient très très souvent. C'est les commandos avancés, sont les francs-tireurs du néolibéralisme.
Plus on monte en hiérarchie, plus c'est méchant entre les gens. Mais il faut jamais se plaindre, il faut toujours être enthousiaste.
Non, attends, on est des héros, quoi. On n'est pas là pour se plaindre. Se plaindre, c'est bon pour les victimes. Nous, on est des tueurs, quoi. Un tueur, ça se plaint pas, hein. Bah, c'est un milieu où moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de conscience politique, ou alors des idées politiques gentiment à droite, bon teint, quoi. Non, il y a des figures repoussoires, donc c'est le fonctionnaire et le prof, parce qu'ils sont toujours en grève, ils foutent rien, ils sont aux 35 heures. Donc la grosse blague, c'est qu'on a essayé, quand ils sont passés aux 35 heures, ils ont dû se mettre à travailler plus parce qu'eux, ils étaient déjà à 29. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est des figures repoussoires. Donc, il s'oppose à la figure du héros, du héros consultant, qui lui ne compte pas ses heures, qui bataille jusqu'à la fin et qui s'investit avec passion dans son travail. Et c'est ça l'opposition, quoi. Tu ne vois pas Napoléon en plein milieu de la bataille d'Austerlitz dire bon, il est 5 heures, là, faut que j'y aille. C'est ça leur image, quoi. Ils sont dans la bagarre, quoi. Ils sont dans un combat. Donc le vocabulaire dont on parlait tout à l'heure, il y a énormément de références. Un lexique de la violence. Moi, j'ai connu quelqu'un qui disait tiens, lui, il veut pas faire ça, bah faut le fouetter. Faut mettre les gens dans la seringue. Ça veut dire mettre les gens sous pression. Ou alors faut aller au contact. En fait, on se rend compte qu'on est comme ça tout le temps. On est excité par ces expressions violentes qui nous galvanisent, quoi, hein, qui nous font de nous des bons petits soldats prêts à en découdre avec n'importe qui sera pas d'accord avec notre mission. Il faut être comme ça, très énergique, très mobilisé, très motivé tout le temps.
Dans ma grosse boîte, l'air est un peu moite, l'hôtesse adorable, siège éjectable.
Je connais la réputation de certains de nos confrères, mais nous, chez McGregor, on ne voit pas les choses de cette façon. On considère le management comme un échange de compétences et pas comme une décision imposée. Notre objectif est de vous aider à améliorer votre performance et de vous donner les moyens de tirer le meilleur de vous-même pour parvenir au progrès permanent, à savoir permettre à chacun de devenir autonome, responsable et impliqué dans l'évolution de l'entreprise. Le progrès permanent, c'est comme un moteur de Formule 1. C'est long à concevoir, délicat à régler, mais quand ça marche, c'est le top. Alors évidemment, on va pas vous faire passer du jour au lendemain d'une voiture de ville à une F1. Mais on est là pour que chacun d'entre vous puisse un jour la piloter en champion. Parce que cette Formule 1, mais c'est votre entreprise de demain.
Et pour ceux qui trouvent que la Formule 1, c'est dangereux, alors, qu'est-ce qu'il faut ?
Mais la structure de la production, enfin l'usine, elle va être complètement modifiée. Il y a un quart des effectifs qui vont y virer. Ça veut dire 80 personnes qui vont être dehors.
C'est dégueulasse.
Ça va, hein. La morale, je la connais.
Tu veux le faire ?
Qu'est-ce que je fasse ? Que je me casse ?
Bah ouais.
Bah ouais. Facile.
Je sais pas si c'est facile. Tu me demandes mon avis, je te le donne.
Et si je me casse, un autre le fera. Et moi, j'aurais foutu ma carrière en l'air. Hein.
Qu'est-ce que tu crois qu'avec tous tes diplômes, tu vas te retrouver à la rue?
J'en sais rien. Mais une démission après 3 mois chez McGregor, je te jure, c'est pas très classe.
Hein. Et virer 80 personnes, ça fait classe?
Pas plus que tu crois, malheureusement.
Je comprends pas pourquoi t'acceptes. C'est pour l'argent.
Pourquoi t'en as pas besoin, toi, de l'argent?
Sûrement pas à ce point-là, non.
Ouais, bien sûr.
C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Merci à Aubépine, Franck Olivier et Vincent Petitet. À lire de Vincent de Goljac, La société malade de la gestion aux éditions du Seuil, et de Pierre Alban Pillet, Audit et conseils vus de l'intérieur aux éditions Vie et compagnie. À voir, Violence des échanges en milieu tempéré de Jean-Marc Moutou et Olivier Gorce. Pour les repères de Là-bas si j'y suis, toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, chaîne France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis. À la technique ce soir, Sophie Moreno et Patrick Henry, réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello, chef de répondeur Christophe Humbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de Là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37 ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com. Suite et fin de cette plongée dans l'univers merveilleux du consulting, demain à 17h.
Que voulez-vous que je fasse?
Des tâches tellement serviles.
Le jour où on m'a dit, tu vois où on peut raboter les dépenses de recherche et d'investissement, tu vois où on peut raboter les dépenses en personnel, les dépenses d'investissement, tout ça pour pouvoir enrichir quelques personnes, là j'ai bien compris que le boulot qu'on me faisait faire allait être payé en fin de course par des gens qui n'allaient pas avoir d'issue de secours.
Jean-Pierre Graffin, 45 ans, chez Le Vert depuis 20 ans. Moi, j'ai commencé comme ouvrier de production et j'ai terminé en fin de carrière, enfin si on peut dire en fin de carrière, avant que l'usine ferme, j'ai terminé au labo. Tout compte fait, quand je vois dans mon secteur, enfin dans mon quartier où j'habite, des gens qui sont défavorisés, au début je disais tiens, je crois que maintenant je vais devenir comme eux, ça sera vite fait. Hein.
Crevez tous.
Ces gens-là ne sont pas les limites. Je pense qu'il manque un petit peu tout bêtement d'ouverture d'esprit sur qu'est-ce qui pourrait être possible d'autre. Ils ont été préformatés dans leur école, ils sont reformatés dans leur cabinet. Dans ce genre de boulot, on nous apprend pas à avoir un regard critique sur ce qu'on fait ou sur le système auquel on participe.
Ah ah, je vais bien les diriger.